Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de cette édition, 72 départements passeront en vigilance orange canicule demain, avec des températures entre 35 et 39 degrés, voire jusqu'à 41 degrés près des côtes du Languedoc-Roussillon, selon Météo France. Marine Le Pen sera bien candidate à l'élection présidentielle malgré sa condamnation hier par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national. Décryptage à suivre dans notre édition. Et le cessez-le-feu avec l'Iran est terminé, a annoncé le président américain Donald Trump après de violents échanges de frappes entre les deux camps, avant d'affirmer que les États-Unis allaient frapper fort l'Iran cette nuit. Nous l'avons évoqué dans les titres, 72 départements passeront en vigilance orange canicule demain avec des températures entre 35 et 39 degrés, voire jusqu'à 41 degrés près des côtes du Languedoc-Roussillon. Selon Météo France, seule la Corse restera en vigilance verte. Tous les autres départements français sont désormais en vigilance jaune. La canicule va se prolonger très probablement jusqu'au week-end prochain inclus, toujours selon Météo France. Et des incendies ont brûlé déjà 400 hectares de forêt sur plusieurs communes du Loir-et-Cher. Un épisode inédit selon la préfecture qui a annoncé que les feux étaient désormais fixés. Dans l'actualité au Moyen-Orient, le cessez-le-feu avec l'Iran est terminé, a annoncé le président américain Donald Trump. Après de violences de frappe entre les deux camps, tout en laissant la porte ouverte à la poursuite des discussions, les États-Unis ont lancé hier une série de frappes contre l'Iran et rétabli leurs sanctions économiques sur le pétrole iranien. Ils affirment répondre aux tirs sur des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Les deux camps s'accusent donc de violer leur protocole d'accord. Les gardiens de la révolution iraniens ont annoncé aujourd'hui avoir frappé 85 installations sur des bases militaires des États-Unis au Koweït et au Bahreïn. Le président de la République, Emmanuel Macron, a fermement réagi à la reprise des hostilités entre Téhéran et Washington et il a condamné les frappes iraniennes.
Il y a eu une violation de cet accord par les frappes iraniennes qui ont conduit à une réponse américaine. Je pense que les Iraniens ont tout tort de faire ces frappes qui contreviennent à ce qu'ils ont eux-mêmes signé, qui a été préparé à Islamabad et signé à Lucerne. Pour autant, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le cadre des 60 jours. Ma compréhension, c'est que les réunions qui sont prévues dans ce cadre vont continuer de se tenir et il faut continuer d'avancer avec beaucoup de calme, de sang-froid et de patience. Et nous défendons toujours le même agenda, la paix et la stabilité, la réouverture du détroit d'Ormuz sans condition ni péage, la paix et la stabilité au Liban, c'est-à-dire le retrait des armes du Hezbollah, le retrait de toute force étrangère du sol libanais et les capacités offertes au Liban pour se protéger lui-même et un cadre de sécurité pour tout le monde avec des négociations qui aboutissent sur le nucléaire et le balistique iranien. Et donc les discussions vont se poursuivre.
Le chef de l'État Emmanuel Macron. Et ces nouvelles frappes compliquent encore davantage des négociations déjà tendues pour mettre fin à la guerre, a déploré la chef de la diplomatie de l'Union européenne. Et conséquence de la reprise des hostilités, les cours du pétrole bondissent aujourd'hui. Et Donald Trump a affirmé que les États-Unis allaient frapper fort l'Iran cette nuit à l'issue du sommet de l'OTAN à Ankara. On reste au Moyen-Orient. Le Liban exige qu'Israël se retire de 3 zones pilotes dans le sud du pays avant de participer à un nouveau cycle de pourparlers prévu bientôt à Rome. Emmanuel Macron a été en début de semaine le premier dirigeant d'une puissance occidentale à se rendre en Syrie depuis la chute du régime du Bachar el-Assad et l'arrivée au pouvoir d'Ahmed el-Sharaa. Le chef d'État a affiché son soutien au nouveau pouvoir syrien pour mener à bien la difficile transition politique dans le pays. Une visite marquée par la signature d'accords économiques. Le président syrien a affirmé qu'il entendait faire de la France le premier partenaire commercial de la Syrie. À la Kodmani, grand reporter à Libération et spécialiste de la Syrie, s'est tout récemment rendu dans plusieurs villes du pays. Je vous laisse l'écouter.
C'était le dernier pays européen qui a tenu le plus fermement sa position contre la dictature d'Assad et pour le soutien à l'opposition syrienne, si bien que la France s'est retrouvée en très bonne position et a voulu capitaliser un petit peu sur cette position de intraitable, alors que d'autres pays européens étaient en train de normaliser avec le régime Assad pour s'engager tout de suite avec ce nouveau pouvoir, malgré toutes les réserves que les uns et les autres pouvaient avoir, sachant d'où viennent les nouveaux dirigeants syriens, c'est-à-dire d'un mouvement djihadiste qui s'est reconverti ou s'est un petit peu recyclé différemment.
Il est possible de dire que la France récolte aujourd'hui les fruits de cette position que vous évoquez ?
Il est certain que les fruits comptent et que je crois que pendant la visite d'ailleurs, même le président syrien Chara a souligné la position de la France qui est restée en soutien à la révolution syrienne et à l'opposition au régime de Bachar el-Assad. Mais aussi, la France s'est engagée très vite, puis comme vous l'avez mentionné, Emmanuel Macron a été le premier dirigeant européen occidental à recevoir le nouveau président syrien à l'Élysée en mai 2025. Donc il y a vraiment eu tout de suite une volonté de s'engager et de normaliser les relations avec la Syrie, avec les Syriens.
Ahmed Al-Sharel, le président syrien, a besoin aussi d'être ainsi, si je puis dire, normalisé.
Il a besoin, cela dit, il ne faut pas oublier qu'il a quand même été bien reçu à l'international, notamment aux États-Unis. Je crois qu'il a fait 2 ou 3 visites à Washington, qu'il a rencontré Trump également ailleurs, en Arabie Saoudite et ailleurs. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, la Syrie a besoin de tous les soutiens internationaux. Bon, évidemment, ils ont les soutiens régionaux, hein, que ce soit les pays du Golfe arabe ou la Turquie. Le pouvoir syrien actuel semble vraiment vouloir avoir des relations pacifiées et plutôt constructives avec le plus grand nombre de pays qui peuvent lui apporter ce soutien.
Ala Komdani, grand reporter à Libération et spécialiste de la Syrie, au micro de François-Xavier de Calonne. Et dans le reste de l'actualité, Donald Trump a annoncé qu'il allait autoriser Kiev à fabriquer des missiles Patriot indispensables pour intercepter les missiles balistiques russes qui frappent l'Ukraine lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky lors du sommet de l'OTAN à Ankara, en Turquie. En France, condamnée mais candidate à l'élection présidentielle, Marine Le Pen lance officiellement aujourd'hui sa campagne. Pourtant hier, nous apprenions la décision de la Cour d'appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front National. Sa peine, 1 an d'emprisonnement sous bracelet électronique, une peine d'inéligibilité de 15 mois et 100 000 euros d'amende. Je vous laisse écouter la chef de file du Rassemblement National lors de son premier déplacement de campagne ce matin à La Flèche dans la Sarthe.
Je ne joue pas à la montre, je suis une citoyenne qui use de ses droits, des droits que l'état de droit, que mes adversaires ont souvent à la bouche, offre à tout justiciable. Et par conséquent, j'effectue un pourvoi car je suis innocente des faits qui me sont reprochés et que je saisis la Cour de cassation pour lui soumettre un problème juridique qui est un problème juridique extrêmement sérieux. Mais je vous rappelle que la Cour d'appel m'a rendu mon éligibilité. Elle m'a rendu mon éligibilité. Je suis donc aujourd'hui éligible.
Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement National. Et on va revenir maintenant sur le verdict de la Cour d'appel avec vous, Clara Dubanchet. Qu'est-ce que cela représente réellement pour Marine Le Pen et son parti ?
Déjà, il faut retenir que Marine Le Pen est reconnue coupable. Coupable pour détournement de fonds publics, 2,8 millions d'euros au total entre 2004 et 2016. Tout comme dans le jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel de Paris d'ailleurs. La peine prononcée avait alors été plus sévère, 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Donc contrairement au premier jugement, la décision de la Cour d'appel permet à la chef de file du Rassemblement National d'être éligible pour la présidentielle 2027. En effet, il faut compter 15 mois à partir du verdict du précédent procès en mars 2025.
Mais comment est-ce qu'on explique cet allègement de la durée d'inéligibilité ?
Pour arriver à cette durée, la Cour retient l'ancienneté des faits, l'absence d'enrichissement personnel et aucune nouvelle infraction de la part de Marine Le Pen. Enfin, les juges rappellent que la peine d'inéligibilité ayant déjà été effectuée, l'ignorer reviendrait à porter atteinte au principe de liberté des candidatures et donc à la démocratie.
Mais il reste pourtant la peine d'emprisonnement avec le bracelet électronique. Hein.
Effectivement, Marine Le Pen a même rappelé il y a quelques jours qu'elle ne ferait pas campagne avec un bracelet électronique. C'est donc sur TF1 hier soir qu'elle a annoncé sa candidature à l'élection et son pari ambitieux de se pourvoir en cassation. C'est-à-dire faire appel à la plus haute instance de justice en France, son ultime chance contre sa condamnation hier. En revanche, ça n'est pas un appel, elle ne pourra pas être de nouveau condamnée. La Cour de cassation aura donc pour but de valider ou non sa condamnation, soit de l'annuler, soit de la rendre définitive. Ce qui lui permet, entre-temps, de commencer sa campagne sans bracelet électronique. Par contre, d'ici début avril 2027, au plus tard, la Cour de cassation pourrait se prononcer pile pendant la dernière ligne droite de l'élection présidentielle, dont le premier tour est le 18 avril 2027.
Et on y voit beaucoup plus clair. Merci Clara Dubanchet. Et enfin un point sur le Mondial 2026. Le tableau des quarts de finale est désormais complet. Les deux derniers huitièmes de finale se sont disputés hier soir avec une fin de match complètement folle entre l'Égypte et l'Argentine victorieuse et une qualification historique de la Suisse. Les explications avec vous, Salma Darlaoui.
Oui, Nawel, revenons sur les rencontres d'hier soir. L'Égypte a été éliminée par l'Argentine sur le score de 3 buts à 2. Les Pharaons avaient pourtant pris une sérieuse avance sur la qualification. Ils dominaient le match grâce à des buts de Yasser Ibrahim et Mostafa Zico. Lionel Messi avait lui vu son pénalty repoussé en première période par Mostafa Chobel. Mené 2 à 0 jusqu'à la 79e minute, l'Argentine a finalement renversé la rencontre. Cristiano Romero a ouvert le score, puis Lionel Messi a égalisé à la 83e minute avant qu'Enzo Fernandez n'offre la qualification aux siens dans le temps additionnel. Un scénario totalement cauchemardesque pour les pharaons. À l'issue de ce match, la Fédération égyptienne de football a annoncé avoir déposé une plainte auprès de la FIFA. Elle conteste plusieurs décisions arbitrales et demande que l'arbitre français François Le Texier ne soit plus désigné pour le reste de la compétition. Dans l'autre huitième de finale, la Suisse a décroché sa qualification face à la Colombie à l'issue de la séance de tirs au but après un match nul, 0 à 0 au terme du temps réglementaire et de la prolongation. C'est une qualification historique pour la Suisse qui n'avait plus atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde depuis 1954, soit il y a 72 ans, et qui affrontera donc l'Argentine en quart le dimanche 12 juillet. À ne pas rater également les chocs Espagne-Belgique le vendredi 10 juillet et Norvège-Angleterre le samedi 11 juillet pour un billet dans le dernier carré de ce Mondial 2026. Et enfin, le Maroc, lui, demeure désormais le seul pays africain encore en lice dans ce Mondial. Les Lions de l'Atlas retrouveront les Bleus ce jeudi pour décrocher leur billet dans le dernier carré avec un coup d'envoi à 22h. France-Maroc, une affiche tant attendue, Nawel.
En effet, merci beaucoup Salma Darlaoui. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.